présenter nos invités. Donc, il y a Pierre Bordage, qui est un auteur qu'on ne présente pas, qu'on ne présente plus. Bien dit. Je vous laisse
si,
le faire.
Si, il veut bien le présenter.
D'accord. Jean-Michel Halimi, qui est astrophysicien.
Merci.
Et Laurent Jeunefort, qui est aussi auteur de science-fiction.
Moi, on me présente, en fait.
Présentez aussi, d'accord. Mais je vous laisse, on va faire un tour de table. Voilà, donc, alors, trou noir, trou de ver, énergie divine, énergie noire, j'aimerais bien peut-être qu'on définisse un peu ces notions scientifiques et qu'on définisse de quoi on parle, peut-être avant de commencer à en débattre. Donc, je vais passer la parole d'abord à Jean-Michel Halimi pour qu'il nous en dise un petit peu plus sur ces notions et peut-être qu'il nous dise un petit peu ben, où on en est de la recherche. Enfin, peut-être un peu. En 5 minutes, ça va être un peu dur, mais en tout cas, déjà, nous en parler un petit peu.
Merci. Donc, effectivement, beaucoup de notions à considérer. Peut-être qu'il s'agit un peu de faire la lumière donc, sur tous ces objets qu'on qualifie de noirs en science. Trou noir, trou de ver, qu'on peut voir un peu comme le symétrique d'un trou noir. Matière noire, énergie noire, beaucoup d'objets dans l'univers sont qualifiés de noirs. Alors, ils ont tous des statuts un petit peu différents. Si on prend déjà le trou noir, la notion qui me semble essentielle de considérer, c'est la notion d'horizon. On parle de trou noir quand il y a un horizon, c'est-à-dire une frontière au-delà de laquelle il n'y a plus de communication avec le monde extérieur, ce qui est extérieur à cet horizon. Un trou noir se définit d'abord par son horizon. D'ailleurs, l'essentiel, si on veut faire la liaison avec la recherche actuelle, l'essentiel de la recherche sur la dynamique des trous noirs, ce qui tourne autour, d'un point de vue classique, s'intéresse principalement à la construction d'horizons qui peut prendre des formes très différentes. En deçà de l'horizon, on n'y a pas vraiment accès. Au-delà de l'horizon, il n'y a plus. En deçà de l'horizon, on ne peut plus faire marche arrière. Et au-delà de l'horizon, on est en dehors de ce qu'on appelle un trou noir. Un trou noir, c'est aussi ce qu'on appelle une singularité. Pour parler de singularité, il faut spécifier dans quel cadre d'espace-temps on se situe, c'est-à-dire dans quelle théorie pour décrire cet espace-temps on se situe. Généralement, on le considère en théorie de la relativité générale, la théorie due à Albert Einstein, qui identifie espace, temps et énergie et qui interprète, pour aller vite, la gravitation comme un effet de courbure de l'espace-temps. En ce sens, le trou noir serait un lieu de courbure infinie de l'espace-temps. Ce qu'il y a de remarquable dans ce cas-là, qui ne concerne pas les trous noirs, mais qui concerne la relativité générale, c'est que c'est une des rares théories qui est capable de prédire un objet qui, d'une certaine façon, l'annule. C'est-à-dire qu'au cœur du trou noir, on sait qu'on est déjà au-delà de la relativité générale, et pourtant, la théorie qui prédit l'existence des trous noirs est la relativité générale. C'est une situation de nature épistémologique qui est assez particulière, qu'on retrouve assez rarement dans d'autres systèmes théoriques divers. C'est à noter. Maintenant, un trou de ver. Alors, ce qui est important aussi sur un trou noir, c'est qu'on n'en a pas évidemment une observation directe, mais en fait, je ne sais pas ce que signifie observation directe. Toutes les observations sont toujours indirectes, au sens où il faut un messager et au sens où il faut un cadre théorique pour l'interpréter. Mais il y a des observations indirectes, tout à fait convaincantes, de l'existence de trous noirs de plusieurs natures, parlons d'un en particulier, qui est le mouvement, par exemple, pour les trous noirs galactiques, par exemple, le mouvement des étoiles. Et pour interpréter de tels mouvements, il est absolument nécessaire, à l'intérieur des trajectoires de ces étoiles, de faire intervenir une masse qui ne peut être interprétée que comme un trou noir. Il y a d'autres façons d'observer donc indirectement le trou noir, et là-dessus, il y a une bonne raison de penser qu'ils existent, sous une forme diverse, en tout cas dans l'univers. Le trou de ver, au contraire, qui est une sorte de symétrique du trou noir, n'a qu'une existence purement théorique, même voire purement mathématique. Il est introduit historiquement par Einstein et Rosen, uniquement, même si ma connaissance en science-fiction est très limitée, il y a eu, je sais, quelques ouvrages de science-fiction qui, et on parle, excusez-moi, de pont d'Einstein-Rosen, c'est-à-dire une zone de l'espace-temps qui relierait deux trous noirs et qui permettrait d'envisager des voyages dans l'espace-temps, un peu sur le mode de ce qu'on appellerait une courbe de genre temps fermé, où on pourrait faire des voyages dans le passé, et où se poserait alors, on aura peut-être l'occasion de revenir sur ces questions-là, les questions liées au principe de causalité lorsqu'on fait des voyages dans le temps, etc. Ce que je voulais dire simplement, c'est que dans plusieurs références de science-fiction, on appelle le pont Einstein-Rosen, le pont Einstein-Rosen-Podolsky, mais en fait, Podolsky n'a rien à voir là-dedans, et c'est en référence à d'autres choses, le véritable nom est Einstein-Rosen. Et donc un trou de ver, c'est simplement un peu ce qui pourrait se passer d'un point de vue mathématique au fond d'un trou noir. Comme on définit différents types de trous noirs, suivant leurs caractéristiques, et ça, il y en a, c'est un théorème d'un point de vue classique, que trois possibles, la masse, la charge électrique et le moment cinétique du trou noir. Suivant que ces quantités sont, la masse c'est évidemment toujours non nulle, mais souvent que la charge ou le moment cinétique sont, c'est-à-dire la capacité à tourner sur lui-même du trou noir, sont nuls ou non nuls, on définit des catégories, des types de trous noirs. À chacun de ces types, il y a l'intérieur, le fond, l'ultime de ce trou noir qui devient un trou de ver et qui permet, alors que le trou noir englobe la matière, qui permettrait de sortir, d'éjecter de la matière, et donc on aurait à nouveau plusieurs catégories de trous de ver, ou trous blancs, ou wormholes, etc. C'est pareil. Maintenant, en ce qui concerne la matière noire, mais on pourra revenir sur ces notions-là, je vais très rapidement. Maintenant, en ce qui concerne la matière noire et l'énergie noire, c'est un contexte complètement différent, même si, par la suite, si vous le permettez, je ferai une proposition aux auteurs de science-fiction qui pourraient peut-être nous renseigner sur la nature de l'énergie noire en imaginant une connexion entre les trous blancs, etc. Mais c'est pour la suite. Donc, matière noire, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une matière qu'on a qualifiée de noire parce qu'elle nous est directement, à nouveau, invisible, parce qu'elle n'émet aucun rayonnement. La seule trace que l'on a de cette matière, c'est à travers ses effets gravitationnels. Il y a, suivant les échelles dans l'univers, au niveau galactique, pour expliquer le mouvement des étoiles dans les galaxies spirales, qui se maintient loin du centre de la galaxie, la nécessité d'introduire un halo, donc de matière noire qui supporte le mouvement de ces étoiles. Aux échelles supérieures, les amas de galaxies, qui sont un assemblage de galaxies, à nouveau, pour expliquer différents effets de nature dynamique ou de stabilité dynamique, on doit introduire un halo de matière noire, au niveau de l'amas de galaxies. À l'échelle de l'univers, pour expliquer, par exemple, que dans le laps de temps qui nous est donné dans l'histoire de l'univers, avec le niveau de fluctuation, on est capable de mesurer des inhomogénéités premières à l'origine de la formation des structures dans l'univers, donc des galaxies, etc. Si on ne disposait que de la matière de nature semblable à celle qui nous constitue, qui constitue les planètes, etc., qu'on appelle matière baryonique, il ne serait pas possible, dans le laps de temps de l'univers, de concentrer, de faire évoluer suffisamment ces fluctuations pour former les structures dans l'univers aujourd'hui. Par contre, si on a une sorte de moteur supplémentaire que serait la présence d'énergie noire, on aurait alors la possibilité, effectivement, de structurer l'univers comme il convient et comme on semble, effectivement, pouvoir l'expliquer et l'observer aujourd'hui. Cette quantité de matière noire représenterait typiquement 20 à 25% de toute l'énergie dans l'univers. Et enfin, il reste la part la plus mystérieuse, peut-être, qui est ce que représente l'énergie noire. L'énergie noire, la motivation, elle est diverse. Celle qu'on donne le plus souvent, et qui a valu d'ailleurs le prix Nobel récent en physique en 2011, est liée à l'observation de l'accélération de l'expansion cosmique. On sait que notre univers, dans la théorie d'Einstein, et c'est évidemment confirmé par les observations, est en expansion, c'est-à-dire que l'espace se dilate, deux points dans l'espace s'éloignent au cours du temps, de façon générale, et surtout aux échelles cosmologiques. Et on a observé que cette accélération, qu'on pensait être à vitesse réduite, disons, mais non accélérée, était en fait accélérée. Ce qui est brutalement, fondamentalement, le plus profond possible, en contradiction avec une des équations de la relativité d'Einstein, et qui vise bien une équation en particulier qui rend impossible, avec la matière que l'on peut connaître, avec les propriétés de la matière que l'on peut connaître, de l'énergie en général, même celle correspondant à la matière noire, pardon, de permettre d'obtenir une pression négative suffisante à l'échelle de l'univers pour expliquer cette accélération de l'expansion cosmique. Et donc on introduit une source que l'on appelle, s'il s'agit d'un substrat, alors la nature de ce substrat est évidemment un mystère, et un mystère ça veut dire qu'il n'est pas, on ne commence pas à le comprendre, mais en tout cas c'est un défi, disons plutôt là, un défi, est ce qu'on appelle l'énergie noire. Mais l'explication de cette accélération pourrait être aussi une modification des lois de la physique dans des considérations extrêmes, dans des conditions extrêmes, qui sont celles pour décrire la dynamique de l'univers dans son ensemble, voire même une remise en cause de notre statut d'observateur. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire que l'univers n'est pas en accélération, mais que notre façon de le voir nous montre une accélération bien particulière qui est très dépendante de la façon dont on le regarde. J'aurai peut-être l'occasion de regarder. Alors évidemment, la situation est peut-être encore plus compliquée que ça, et l'explication est peut-être à la fois, pour une part, dans un substrat mystérieux, dans une modification des lois totalement étrange, voire dans un statut de l'observateur complètement renouvelé. Mais alors là, je m'aiderai d'auteurs réputés et solides, très peu, le plus souvent, excepté peut-être par les auteurs de science-fiction contestés, qui s'appellent Albert Einstein, et qui disait « Dieu est subtil, mais il n'est point méchant, donc il ne nous a sûrement pas proposé une solution, il faudrait mélanger toutes ces explications. »
Merci, merci Laurent. Voilà, je crois que ces notions amènent beaucoup de questions, font rêver aussi. Alors, je me tourne un peu vers les auteurs de science-fiction. Effectivement, quand on crée un univers de science-fiction, si on crée un univers, un bon univers, on est obligé de se transporter dans ce monde. Comment vous, alors peut-être abordage en premier, comment vous avez intégré ces notions comment, dans votre œuvre
je vais vous dire une réponse d'auteur. Je les ai intégrés comme j'ai vu.
C'est pas mal.
Je veux dire, moi je ne suis pas de formation scientifique, mais de formation littéraire, donc j'ai une notion de science physique. Évidemment, il a fallu que je m'intéresse un peu à l'astrophysique quand j'ai commencé la science-fiction, parce que j'ai tendance à mettre un peu de conneries sur mes manuscrits, et puis quand mon éditeur me rate pas en disant Pierre, ce serait pas possible pour telle et telle raison. Oui, mais c'est joli mon système, mais ça marche pas. Donc voilà, je réfléchis sur un autre système qui soit à peu près fiable. Donc il a fallu que j'acquière quelques notions de base d'astrophysique. Le pari pour l'auteur de science-fiction qui a une conscience en science-fiction, c'est d'essayer de respecter au maximum les théories scientifiques connues et reconnues. On part déjà de ce principe-là. Après, c'est l'observation. L'observation nous permet certaines choses, nous permet de dire certaines choses, mais elle a ses limites, puisque nous sommes limités par nos sens, et qu'à un moment, c'est un autre relais, un autre organe, un autre outil qui prend le relais, c'est certaines imaginations. Et voilà. Alors, noir, ça excite énormément l'imagination. Cette possibilité de passer d'un endroit de l'univers à l'autre en utilisant une sorte de raccourci, si j'ai bien compris, hein, des trous verts, oui, c'est plutôt des trous verts que du rond, c'est des raccourcis qui nous permettent de. Parce qu'évidemment, quand on est dans le science-fiction, ne veut pas être forcément space opéra, parce que vous allez redéfinir tout ce qu'est la science-fiction et qu'il y a des anticipations, il y a plus grand vie, il y a plein de trucs. Il y a aussi dans la science-fiction qui s'intéresse au passé, enfin, la science-fiction très riche. On est dans le thème Space Opera. Space Opera, ce sont des aventures qui se déroulent à l'échelle galactique, parfois simplement systémique, mais souvent à l'échelle galactique. Et donc on est confronté à un problème majeur quand on est dans la science-fiction, qui est le transport. Puisque d'un seul coup, les distances deviennent énormes. Donc il faut trouver des systèmes, et connaissant les théories d'Einstein et tout ça, où on ne peut théoriquement pas aller plus vite avec les lumières, c'est carrément impossible. Et donc il faut trouver des systèmes qui nous permettent de ne pas passer notre temps à décrire des voyages. Ce serait ça, je pense. Des siècles, des millénaires à faire des voyages, et avant c'est un petit peu galant. Quoi. Donc il faut qu'on trouve des systèmes. Alors, en entendant trou noir ou trou vert, super, un système, on va pouvoir nous y aller dedans, parce que l'imaginaire le permet. Peut-être pas l'observation de l'imaginaire, donc on va passer dans le trou noir, on va aller dans le tunnel et on va passer de l'autre côté, super. Énergie noire, ah oui, il faut de l'énergie pour que les vaisseaux fonctionnent et sur des longs voyages d'années, etc. Bah, où est-ce qu'on puise l'énergie? Bah oui, il y a de l'énergie noire, donc voilà, on va trouver l'énergie noire. On ne sait pas comment ça marche, mais ce sont des termes scientifiques. C'est-à-dire qu'on a entendu des informaticiens parler d'énergie noire, de terre, de noir. Et donc, on est bien finalement dans le pari, enfin dans le pacte qu'on passe avec le lecteur, c'est que on va plutôt utiliser des notions scientifiques ou pseudo-scientifiques, énergie noire, etc., plutôt que force des esprits. Là, ce qui devrait être la fantaisie. C'est-à-dire que nos vaisseaux ne fonctionnent pas avec la force des esprits, mais avec peut-être de l'énergie noire, et qu'on raccourcit l'histoire grâce au trou vert, etc., etc. Donc ce sont des notions peut-être très mal comprises, hein, et mal intégrées, enfin peu importe, parce que de toute façon, on n'est pas encore au stade théorique, donc on a quand même une grande liberté imaginaire là-dessus. Donc voilà, on va utiliser tous ces principes-là qui sont des principes pseudo-scientifiques qui vont faire que le pacte passé avec le lecteur sur science-fiction fonctionne. Et là, je ne sais pas si Laurent sera d'accord avec moi ou pas.
Tout à fait, c'est ça. Mais ce qui est marrant, c'est que le trou noir, c'est un objet qui a été objet astrophysique qui est avéré. Le trou de ver, ça reste une hypothèse, jusqu'à preuve du contraire. Donc on est. Or, l'ASF utilise les trous de ver depuis très longtemps, hein, depuis une quarantaine d'années. Donc c'est un objet déjà science-fictionnel, en fait, à la base, et qui montre un peu la porosité, les allers-retours entre la science et l'ASF. Le trou noir, c'est un. Enfin, si j'ai bien compris, ça nous protège d'une singularité, enfin, c'est une interface entre l'univers la physique, de la physique classique et relative, enfin, et la relativité générale, et puis une autre physique. Dans la SF, ça a été utilisé à partir de, à peu près au même moment où les hypothèses ont été formulées. Et pour l'auteur de SF, ça a souvent été soit une sorte de l'équivalent des vortex dans les récifs marines du XVIIe siècle, etc. C'est-à-dire des sortes de gouffres qui avalaient les vaisseaux. Donc là, c'est des sortes de gouffres qui avalent les vaisseaux spatiaux. C'est aussi une source d'énergie dans certains récits de SF, puisque avec le disque d'accrétion qu'on trouve autour du trou noir de particules accélérées ou de matière accélérée, on sait que les trous noirs peuvent émettre de l'énergie. Donc ça peut être utilisé dans certains récits de SF comme propulseur, par exemple, pour des micro-trous noirs. C'est aussi pour le cinéma une sorte de vision de l'enfer. Ceux qui ont vu le film Trou Noir des productions Disney ou Event Horizon de Paul Anderson, c'est un passage vers une autre dimension et donc une dimension qui peut être métaphysique. Et donc là, pour le coup, c'est l'enfer. On est dans les mythologies chrétiennes, pour le coup, de Disney. Donc c'est effectivement le trou noir, c'est que, comme tu disais, c'est. C'est une part de terrain inconnu. Le terme noir, c'est aussi le noir sur la carte. C'est aussi le symbole de l'inconnu. Alors que le trou vert, c'est vrai qu'on est dans une toute autre problématique. On est, depuis les années 60, il y a, avec Ursula Le Guin, qui a imaginé des enzymes, qui sont des sortes de portails, de trous verts, quoi, qui sont en orbite autour de systèmes stellaires et qui permettent le voyage instantané. Le thème du trou de ver, l'objet trou de ver, c'est vraiment parce qu'à la base c'était un thème art science, c'est-à-dire qu'on avait besoin de, les auteurs à connotation scientifique avaient besoin de trous de ver pour montrer que le voyage était possible, mais sans avoir besoin de dépenser une énergie infinie ou générer des paradoxes temporels avec des vaisseaux à longue vie que la vitesse de la lumière, etc. En fait, c'était une optique art science à la base de trou de ver. Et puis petit à petit, il a infusé dans le reste du space opéra, de ce genre de truc. Et c'est devenu, comme tu dis, une sorte un peu de portail magique qui permet d'aller d'un point à un point B de façon instantanée, un peu comme des magiciens qui arrivent à se téléporter comme ça. Quoi. C'est devenu un objet magique alors qu'à la base ça faisait partie de l'art science, de la SF à vocation scientifique.
L'exemple le plus poussé, c'est la maison dans l'Hyperion, la maison créée par Dan Simmons, où l'objectif change de pièce, change de planète.
Ouais. Qui était une référence à la maison biscornue de Heinlein, où j'imagine une maison fabriqué en forme de tesseract, c'est-à-dire de l'hypercube, où les pièces se développent en d'autres dimensions. Ouais. Alors Stargate, oui, c'est typiquement le type de récit avec des trous de verre.
C'est là qu'il l'appelle.
Voilà.
C'est là qu'il l'appelle, je crois. C'est dans cette série, me semble-t-il, qu'il l'appelle un pont de Einstein-Rosen-Podolsky.
Oui, exactement. Et la SF est utilisée déjà depuis longtemps. Mais c'est vrai que ça a officialisé dans le grand public le terme trou de ver, c'est sûr.
Mais pour réagir justement à ce qu'il y a dit, qui est très intéressant sur le rôle de la, de, du langage proposé par le scientifique qui fonderait une légitimité scientifique à l'auteur de science-fiction pour pouvoir l'utiliser, et que pour voyager, un trou noir ou un trou de ver semble plus légitime que les forces de l'esprit, comme vous le disiez. Et sur la deuxième chose, à quoi peuvent servir les trous noirs, je trouve ça très intéressant. Et sur ce deuxième point, faire une remarque. Ce qui est intéressant, si on élargit déjà même le débat, et que justement on envisage l'intérieur des trous noirs fait intervenir essentiellement parce que la courbure devenant infinie implique que la description ne peut plus rester classique, au sens non pas classique relativiste, mais classique quantique. La description à l'intérieur d'un trou noir doit être quantique. C'est pour ça que souvent les descriptions d'intérieur de trous noirs se situent à plusieurs dimensions, pour une raison simple, c'est que comme le trou noir est un objet purement gravitationnel, une description quantique gravitationnelle nécessite une théorie quantique de la gravitation, ce dont nous ne disposons pas, pour une raison bien particulière qui est ce qu'on appelle que la théorie, la relativité générale en particulier, n'est pas renormalisable, c'est-à-dire qu'il apparaît dans cette théorie des infinis, ce sont des infinis d'une nature différente des singularités dont on parle là, dont on ne sait pas se débarrasser et qui n'ont pas véritable, et dont on ne sait pas donner un sens physique. Par contre, lorsqu'on étend sous certaines conditions, il faut être très prudent avec tout ceci, les théories de la gravitation à des dimensions supérieures, on peut résoudre le problème de renormalisation de la théorie. C'est-à-dire des choses qui pouvaient apparaître infinies ne le sont plus, parce que d'une certaine façon, elles sont renvoyées dans ces dimensions supérieures. C'est pourquoi souvent l'intérieur des trous noirs est décrit à des dimensions, avec des dimensions supérieures aux quatre dimensions, dont les trois dimensions d'espace que l'on a. Et donc ça, c'est aussi un outil très utile, j'imagine, à la science-fiction, parce que l'accès au trou noir, le passage par un trou de ver, peut immédiatement, et d'une certaine façon au moins c'est fondé par les travaux qui se font, nous faire accéder à des dimensions supplémentaires. La proposition que j'avais, c'était juste une remarque, donc, la proposition que j'avais envie de faire, c'était la suivante. Si je comprends bien, le trou noir, le trou de ver, etc., et l'énergie noire sont... Alors, le trou noir, le trou de ver sont utilisés comme des vecteurs, en fait, comme des moyens de transport pour circuler à l'intérieur de l'espace-temps de façon super luminique, plus rapide que les vitesses de la lumière, pour rejoindre des zones de temps reculé ou des temps dans le futur, etc. Mais existe-t-il la possibilité de voyager de façon différente? Et pour la raison suivante, vous le savez probablement, la description que propose la mécanique quantique de notre réalité est une description probabiliste. C'est-à-dire que la mécanique quantique se défait de l'idée de trajectoire, de fait physique, comme on peut le connaître en physique classique, et introduit simplement pour une particule, non pas une trajectoire, mais une probabilité de présence. C'est-à-dire qu'elle a une certaine probabilité d'être à un endroit, et a priori, sa probabilité peut être à plusieurs endroits à la fois. Cependant, quand on fait une mesure, on réduit ce qu'on appelle le paquet d'ondes, qui est cet objet mathématique qui décrit la probabilité, et la probabilité alors, et la particule alors, par exemple s'il s'agit d'étudier le mouvement d'un électron à travers des fentes, se trouve passer à tel endroit et plus à tel autre endroit, alors qu'il avait une certaine probabilité d'être à un autre endroit. Et donc, là je vais vraiment très très vite, mais on introduit par exemple l'idée de multivers, qui sont l'idée d'imaginer que cette réduction de paquet d'ondes qui s'est passée d'une certaine façon dans notre univers à nous, aurait pu se passer différemment dans un autre univers. Le lien que va avoir cette notion avec la cosmologie, les scénarios de formation de l'univers, va se produire aux tout premiers instants de l'histoire de notre univers, dans, essentiellement, je vais toujours très vite, pendant la phase d'inflation, c'est-à-dire une phase d'expansion phénoménale au tout début de l'univers. Cette inflation étant portée par une énergie particulière, un champ scalaire, une quantité particulière, qui peut prendre des valeurs diverses en tout point de l'espace-temps, qui peut d'ailleurs être infini à ce moment-là, et qui est infini fort probablement. Et suivant la valeur qu'il a, on a un phénomène d'inflation différent en tout point, et donc un univers observable qui va émerger, qui peut être le nôtre ou qui peut être un autre, qui peut tellement être différent, qui pourrait naître ailleurs, naître avec des grandes guillemets, émerger ailleurs, avec d'autres dimensions, avec d'autres valeurs des constantes fondamentales de la physique, avec d'autres lois de la physique. Et donc, ce que j'aurais envie de dire, c'est pourquoi on n'envisagerait pas, peut-être que ça existe justement, c'est mon inculture qui me permet de le dire, la possibilité d'utiliser des trous noirs, des trous de ver, et on pourrait même trouver le lien avec l'énergie noire, qui nous permettrait non pas de circuler à travers l'espace-temps, mais de circuler à travers ces multivers et de passer d'un univers qui serait le nôtre, avec les lois de la physique, comme on peut plus ou moins bien les connaître, à un autre univers qui aurait plusieurs autres dimensions spatiales, qui aurait des lois de la physique différentes, qui aurait même un principe de causalité défini de façon différente, et où donc la question de est-ce que le principe de causalité est violé lorsque l'on fait un voyage dans le temps ne se pose que dans notre univers à nous, mais peut-être pas dans un autre univers.
Oui, oui, ça a été traité dans plein de bouquins, dans Star Trek, c'était dans Next Generation ou Voyager. Enfin, une des saisons où justement il y a des ponts entre des réalités alternatives. Voilà. Mais c'est un. Oui, oui. À peu près toutes les variations théoriques ont été explorées
J'en ai une autre, si vous me permettez,
oui.
Qui concerne cette fois aussi l'énergie noire. Tout à l'heure, en essayant d'expliquer rapidement ce qu'était l'énergie noire, je donnais trois grandes classes d'explications. Soit un substrat, donc il faut trouver la nature microscopique, c'est un problème en tant que tel, mais tel qu'à l'échelle macroscopique, il aurait l'effet d'un fluide à pression négative. Une deuxième explication qui serait une modification des lois de la physique à très grande échelle, donc une correction, une modification de la relativité générale. Ce qui veut dire fondamentalement, c'est ça qui est intéressant, en science, les choses sont construites de façon rigoureuse, une violation du principe d'équivalence, c'est-à-dire expliquer pourquoi, alors que la relativité générale donne sens à ce fait, tous les corps tombent de la même façon. C'est le seul fait qui est nécessaire pour construire la relativité générale. C'est parce que tous les corps, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur forme, quelle que soit leur densité, quel que soit tout ce que vous pouvez imaginer, qui tombe de la même façon, que vous pouvez construire la relativité générale. Chose dans laquelle, si vous violez ce fait, vous imaginez que deux corps de densité différente ou de nature différente, du fer et du bois par exemple, tomberaient différemment, vous n'avez pas la relativité générale, vous avez une autre théorie de la gravité. Mais il y a une troisième explication, qui est ce qu'on appelle les univers inhomogènes. Alors je ne parle pas là du fait de supposer que nous soyons dans une position très privilégiée dans l'univers et donc des solutions très spécifiques de la relativité générale, mais d'un cadre d'explication d'énergie noire qui me semble plus intéressant, qui est d'expliquer que l'espace-temps que l'on suppose la plupart du temps dans les modèles de cosmologie standard dans lequel on introduit justement cette première et cette deuxième explication que je viens de donner, est essentiellement homogène aux grandes échelles, à des échelles suffisamment grandes, homogène et isotrope, c'est-à-dire le même en tout point et en un point donné, le même dans toutes les directions. On sait, justement d'après la relativité générale, que si en quelque part je concentre de la matière, je risque de courber l'espace. Donc l'espace là où il y a de la matière, normalement, n'est plus homogène et isotrope. Donc je peux me dire que ce phénomène de structuration auquel je faisais allusion tout à l'heure, qui fait intervenir la matière noire, tous ces problèmes sont liés entre eux, peut tout à fait modifier l'espace-temps lui-même, et on ne pourrait plus le considérer comme homogène et isotrope, c'est-à-dire réellement, tout ceci se passant à des échelles astronomiques, évidemment, cosmologiques, le même en tout point et le même dans toutes les directions. Ce qui est intéressant alors, c'est que vous pouvez définir alors un domaine, une région de l'espace, ou si vous vous contentez de l'observer et que le phénomène d'observation soit simplement un phénomène de moyenne, que je regarde en moyenne ce qui se passe, vous vous rendez compte alors que les équations d'Einstein décrites dans ces univers inhomogènes prennent une forme tout à fait semblable aux équations d'Einstein décrites dans un univers homogène et isotrope, qui est le cadre standard, mais où vous avez dû ajouter deux termes. Un terme qui est lié à ce qu'on appelle la trois courbures, c'est-à-dire l'influence de la courbure de l'espace plongée dans un espace à quatre dimensions, et un terme qui n'est que donné en anglais, qui s'appelle back reaction, l'effet justement de la concentration de la matière sur l'espace lui-même, sur l'espace-temps et sur la courbure locale. Et que ces termes-là, si l'effet de la back reaction est suffisamment important, pourraient être, en fait, jouer le rôle de l'énergie noire que vous pensiez être un fluide remplissant tout l'univers. Donc, en fait, l'accélération de l'univers ne serait que le résultat de la dynamique propre de l'univers et d'un biais observationnel qui nous le fait voir comme étant homogène alors qu'il est inhomogène. Ce qui est intéressant alors, et là on rejoint les multivers de tout à l'heure, c'est que ces domaines d'espace limités qui peuvent apparaître comme des univers homogènes ne sont qu'un domaine, qu'une partie de l'univers. Et on peut parler alors de tout univers qui est la somme de tous ces domaines. Mais où l'univers tout entier n'est pas la somme des parties, parce que la dynamique globale de l'univers n'est pas la dynamique d'un domaine en particulier. Et puis chaque domaine peut avoir sa dynamique propre. Ça veut dire qu'un domaine peut avoir un Big Bang, un autre peut ne pas avoir de Big Bang. Un domaine peut être en expansion, un autre peut être au contraire en contraction. etc. On peut imaginer tout ce qu'on peut imaginer dans le cadre pour notre univers. Là, à nouveau, il serait intéressant de faire intervenir les trous noirs, les trous de verre, et d'utiliser donc ce schéma qui passerait par l'observation, donc le langage, ce que vous disiez tout à l'heure, pour essayer de passer dans ces domaines, et pour du même coup mettre en évidence un rôle au trou noir et au trou de verre, mais également une explication à l'énergie noire.
Il y a Karl.
des idées de bouquin.
Sur le côté inhomogène, ou en tout cas, enfin, les régions de l'espace par exemple, les constantes fondamentales sont différentes. La vitesse de la lumière, par exemple, n'est pas 300 000 km/s, mais est plus courte, par exemple. Des auteurs comme Baxter, comme Stephen Baxter. Juste en bas, c'est un spécialiste d'explorer ce type d'univers avec des constantes cosmologiques différentes. Dans le premier volume, ça s'appelle Temps de ces univers multiples, il explore d'ailleurs, toute la fin, c'est le voyage d'un spationaute qui passe dans une sorte de portail d'ailleurs, qui ressemble un peu à un portail de Stargate. Il va visiter comme ça des dizaines d'univers de poche avec des constantes différentes. Et donc il voit des univers qui ne durent qu'un quart d'heure, par exemple, parce qu'ils sont condamnés à s'effondrer sur eux-mêmes en permanence
Justement, ça c'est très intéressant parce que ça pose la question fondamentale qui est de savoir si la physique est dans la valeur des constantes ou dans le rapport entre les valeurs de ces constantes. De mon point de vue, la physique est plutôt dans le rapport entre les valeurs de ces constantes. Parce que si vous rescalez toutes les constantes, alors ça pourrait être assez subtil, je ne sais pas, si vous les rescalez tous du même facteur, ça ne va pas marcher. Mais vous pouvez, par exemple en relativité, ce n'est pas la vitesse de la lumière qui est limite. C'est le fait qu'il existe une vitesse limite, qui se trouve être la vitesse de la lumière, mais qui pourrait en être une autre. C'est pour ça que l'idée de penser qu'en relativité, il ne puisse pas y avoir des particules. Reste à savoir quelles sont ces particules. Mais des particules qui pourraient aller plus vite qu'à la vitesse de la lumière, ce n'est pas un problème. Il peut tout à fait y avoir des particules qui aillent plus vite qu'à la vitesse de la lumière. Ce qui est clair, c'est que ces particules ne peuvent pas être constituées de masse comme on les connaît aujourd'hui. En fait, dans le formalisme standard, elles auraient même une masse qu'on dirait de complexe. Donc, c'est des choses un peu compliquées. Mais le formalisme n'interdit pas les transformations de Lorentz, etc., qui permettent de décrire les effets tout à fait passionnant de la relativité, que sont la dilatation dans le temps, la contraction des longueurs, etc., n'interdit pas d'aller plus vite que la vitesse de la lumière.
Mais en même temps, les récits qui mettent en scène, par exemple, des valeurs cosmologiques qui changent, ça, on la trouve en SF depuis les années, 30. Il y a un récit de Jacques Spitz qui doit dater de 1938 ou 1939.
Cette question, c'est très intéressant parce que ça renvoie à ce qu'on appelle le principe anthropique. Il y a des formulations, je crois, un peu simplistes et fausses du principe anthropique, qui est de dire que si je modifie de façon epsilonesque, microscopique, les constantes de la nature, la vie ne pourrait pas apparaître. Parce que les lois de la physique m'expliquent que, par exemple, les atomes vont exploser ou je ne sais quoi. Ça, c'est pas correct comme raisonnement.
Dans le cas de Spitz, c'était une manière d'explorer d'introduire du fantastique dans la réalité quotidienne, puisque tout à coup, on a ce qu'on croit être, c'est ça qui est intéressant avec les constantes, c'est qu'elles sont constantes normalement. Oui. Donc quand elles commencent à plus être constantes, le monde vacille sous nos pieds. Donc l'exploration justement de ce qui était absolu et qui devient relatif, en soi c'est intéressant. Et c'est aussi une des problématiques de la science qui est d'avoir comme ça des théories qui expliquent tout. Et puis tout à coup on a quelque chose qui... le petit grain de sable qui fait que l'observation ne coïncide pas, et c'est un truc tout petit.
Non, mais justement, ce que je veux dire, c'est que nous ne sommes pas tout à fait dans cette situation-là.
On doit reformuler une autre théorie qui est plus englobante.
D'accord, si vous voulez, on peut reformuler. Mais ce que je veux dire, c'est que cette démarche-là ne me semble pas séparer la science-fiction de la science, parce que ça me semble être tout à fait une démarche tout à fait scientifique. S'il s'agit, à un moment donné, de retrouver une explication qui peut tout à fait expliquer un certain nombre de choses que l'on peut observer. Donc cette démarche qui consisterait à faire varier des constantes ou à changer les valeurs des constantes, c'est a priori assez commun dans certains aspects de la cosmologie ou de la physique théorique, avec des raisons qui sont fondées. Par exemple, faire varier la constante de la gravitation, qui est une constante fondamentale en termes de la relativité générale, c'est tout à fait comment dire, presque banale. Il y a plein de théories qui envisagent ce fait-là. Ça consiste à introduire une dimension, c'est équivalent à introduire une dimension supplémentaire à l'espace, qui fait que ça se traduirait dans notre espace à nous, avec une constante de la gravitation qui dépend du temps, voire de l'espace. Mais le point, c'est qu'ensuite, pourquoi ces théories-là peuvent souvent échouer, c'est parce qu'elles n'arrivent pas à reboucler et à expliquer d'abord toutes les conséquences qu'elles engendrent par ailleurs, mais simplement des faits d'observation assez immédiats. Et donc, dans ce cas-là, elles ne tiennent plus, elles ne sont plus considérées comme scientifiques, même si elles pourraient être considérées comme possibles pour la science-fiction. C'est là que se situerait vraiment la différence.
Je voudrais attirer l'attention sur le deuxième terme du mot science-fiction, qui est fiction. Donc, nous sommes dans des romans, et les romans, ce serait de la matière même, hein, c'est simplement des personnages. J'ai oublié le point de vue du personnage. Je pense que l'intérêt, principalement des récits de science-fiction que nous ferons, c'est de parler de l'humain, et donc de l'humain dans certaines circonstances, dans certaines situations. Je pense que l'intérêt, effectivement, de ces nouvelles constantes, de ces nouveaux univers, c'est de mettre l'humain dans d'autres circonstances. On va explorer davantage l'humain, mais je pense que d'abord et avant tout, la science-fiction, enfin, peut-être que je la pense sur moi, c'est une façon d'explorer l'humain, plus que d'explorer l'univers. Puisque, en tant que romancier, ma principale matière, finalement, c'est la matière humaine. Ce sont les personnages. Ce sont là qui sont, d'ailleurs, par eux-mêmes, non résumables à des théories. Énormément de contradictions, à des émotions, à des sensations. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, en tant qu'auteur, c'est de projeter l'humain dans certaines dimensions, dans certaines circonstances, et de voir comment il réagit, donc de l'explorer, et donc de l'explorer de façon encore plus, de façon plus large, plus globale, pour ramener à ce que nous sommes là maintenant, une expérimentation de l'humain. Donc ce sont des fragments d'humain qu'on va chercher dans l'espace, qu'on ramène, si vous voulez, à maintenant.
Juste sur l'humain, d'ailleurs, enfin, je connais bien Dune, Frank Herbert, justement, il couplait les deux, c'est-à-dire qu'il y avait c'est des humains qui étaient transformés avec les mélanges, etc., qui permettaient de faire replier l'espace. Et faire, enfin, voilà, vous parliez tout à l'heure de l'esprit.
De ceux
qui ont
des vaisseaux, etc.
Tout à fait. Les gâteurs. Alors. Peut-être qu'on peut prendre quelques questions, parce qu'il y en a abordé des notions assez hard, hein, c'est ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Plusieurs. Allez-y. Peut-être prenez le micro, parce que...
De ce que je viens de dire hier, mais moi, c'est la quatrième fois que je l'ai fait ici, c'est que je rappelle que la différence entre la science et la fiction, c'est aussi qu'il y a deux critères d'évaluation totalement indépendants, je ne dirais même pas sans la moindre corrélation. La science est évaluée à l'aune de l'expérience et de la réalisation de la chose, alors que la fiction est évaluée à l'aune de la vraisemblance perçue par le lecteur. Et ces deux critères sont totalement disjoints et non corrélés.
Alors maintenant les questions.
C'est pas vrai,
on va peut-être réagir là-dessus.
Qu'est-ce que vous appelez vraisemblance?
L'effet de réel.
L'effet de réel. L'effet de réel n'a rien, comme le disait Boileau. L'effet de réel et le réel n'ont rien en commun.
Ça, c'est supposé déjà qu'il existe un réel qui est figé, qui est extérieur à nous, etc. Je ne sais pas si c'est vrai, ça. Le réel de la science, ça dépend. Ça me paraît pas aussi...
À moins d'aller dans le solipsisme, il doit exister quelque chose en dehors de notre esprit.
Je ne sais pas. Ce que je connais, c'est ce que je dis sur le réel.
Bon, oui. Nous, on a accès qu'à ce qu'on voit du réel. Ça, c'est autre chose. Mais le réel...
Doit être
existant dans sa perception. Sinon,
non,
on arrive dans le
solide. On va pas. Alors là, j'aurais une notion un peu complexe. Peut-être qu'on ne sera pas d'accord, mais monsieur, vous avez une question?
Il y a.
Oui,
quelques temps, il est paru un certain nombre d'articles sur ce qu'on appelle l'anomalie pionique. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui. On cherchait ce qu'on appelle les artefacts, c'est-à-dire les problèmes dans la mesure, donc quelle question de pionnière 10 n'était pas exactement là où elle devait être. Je crois qu'elle va plus lentement dans le système solaire. Et moi, l'impression que ça me donnait, c'est que beaucoup plus proche de chez nous que ce qu'on imaginait, ça résout peut-être en partie, parce que ça pose différemment les questions de la mesure. On avait un genre d'ambassadeur, un point matériel technique qu'on connaît, qui nous commençait peut-être à nous renseigner sur une physique qui n'était pas celle qu'on imaginait. Alors, soit une physique, soit peut-être la présence d'une matière, d'un phénomène, un choc terminal, des choses comme ça. Donc, au premier temps de la marche, est-ce que ça donne pas envie d'écrire quelque chose là-dessus, tout simplement, il y a un bon sens pour l'instant pas une solution, je ne sais pas comment on peut faire. Deuxièmement, si une des explications c'était précisément la masse qui perturbe les choses, on parle de trous noirs infinitésimaux, ça peut peut-être exister de manière théorique. S'il y avait donc au-delà du système solaire, tout un tas d'objets, enfin, peut-être dans l'espace interstellaire, des objets comme ça qui baladent, est-ce qu'en ayant une carte, une cartographie de ces objets, de la même manière qu'on fait du rebond avec des incréments de vitesse modestes sur les planètes du système, on ne pourrait pas, sans avoir recours à aucune nouvelle physique, en jouant dans les effets de marée, tout ça, dans l'abstraction de ça, en s'approchant pas trop près, mais pour rebondir et d'aller atteindre une vitesse beaucoup plus considérable grâce à ce genre d'objets qui sont a priori prédits.
Alors sur l'anomalie de Pionnier, vous avez raison, il s'agit donc d'un mouvement de la sonde Pionnier à la limite du système solaire et son mouvement ne semblait plus être en accord avec les prédictions attendues par les lois de physique classique, disons. Alors il y a eu plusieurs propositions, effectivement, on a montré que ça pouvait être cohérent avec la présence justement d'un champ scalaire, d'une énergie supplémentaire locale. Mais ensuite, à ma connaissance, je crois que le problème a un peu été bouclé, clos, par le fait qu'une explication sur la technologie interne à la sonde pouvait montrer qu'elle avait modifié en fait ses conditions et qu'elle pouvait ce qui pouvait expliquer son mouvement. Mais si vous voulez, toutes ces problématiques de mouvement anormal de corps massif, ça rejoint le problème de l'énergie noire, de l'accélération de l'univers, etc. Ou même de la concentration de la matière noire. Imaginez qu'il y ait de la concentration de matière noire de façon importante au niveau du système solaire, même si ça pourrait expliquer certains faits, comme par exemple l'anomalie Pionnier, etc., ça pose des problèmes dans d'autres situations, que la matière noire puisse se concentrer sur ces échelles-là. Donc c'est pour ça que généralement, c'est ce genre d'explication qui est, à ma connaissance, retenu. Mais ça ne remet en cause en rien le fait observationnel et la nécessité, effectivement, d'aller voir au-delà de la description classique que l'on peut imaginer en laboratoire. Maintenant, sur le côté, faire acquérir un mobile une vitesse plus importante par rebond, c'est ça que vous disiez ? Par rebond sur des planètes, comment ? Sur les trous noirs ? Écoutez, je ne connais pas ça, pourquoi pas, oui. Je ne connais pas vraiment cet aspect-là. Donc, la présence de ces trous noirs microscopiques sont souvent interprétés comme des trous noirs primordiaux. Parce que les processus de formation de trous noirs stellaires, donc avec des masses comparables à la masse du Soleil, ou les trous noirs supermassifs, donc disons 1000 fois la masse solaire, puis les trous noirs intermédiaires, entre 10 et 100 fois la masse solaire, les processus de formation sont très différents. Ils peuvent apparaître lors de la formation de ces objets respectifs, des étoiles, des galaxies, etc. Par contre, les trous noirs microscopiques, la seule origine qu'on peut leur donner, elle est de nature primordiale. Donc elle serait apparue avec le Big Bang et notamment spécialement autour de cette phase d'inflation. Normalement, c'est le trou noir en même temps, mais bon, l'exclusion complète, je crois que n'est pas du tout encore un problème clos. Hein. Mais ces trous noirs microscopiques, primordiaux, s'ils existent, doivent rayonner des ondes gravitationnelles et un fond d'ondes assez important qu'on devrait pouvoir assez vite observer. Donc, par exemple, les expériences comme LISA, d'observation d'ondes gravitationnelles, sont à la limite du seuil nécessaire pour observer un fond de rayonnement d'ondes gravitationnelles provenant de trous noirs primordiaux. Et je pense qu'à l'échelle de 100 ans, je dirais, pour ne pas me tromper, ça devrait être possible de trancher et de dire, en tout cas, ceux qu'on serait capable d'expliquer dans le cadre d'un processus de phase très primordiale de l'univers et de trous noirs microscopiques, qu'on pourrait retrouver alors partout dans l'espace-temps, effectivement, devraient du même temps aussi émettre un fond d'onde gravitationnelle qu'on devrait aussi observer. Si on ne l'observe pas, ce n'est pas le scénario, en tout cas, qu'on attend de ces formations de trous noirs microscopiques. Si on l'observe, ça serait intéressant, très intéressant.
Il y avait d'autres questions, je crois. Je vais poser une question. Il y a d'autres
arrêter, ou la vitesse, au contraire, au lieu au lieu que la vitesse de la lumière passe à la vitesse de la lumière, c'est genre, en fait, on dit, pendant une journée, c'est 50 ans. C'est assez intéressant en plus l'idée aussi de la... en fait, ce que vous venez de dire avec cette troisième explication, cette troisième théorie, là, clairement, ouais, c'est clairement le film Inception, c'est voilà, bon, à travers le rêve, mais voilà, des rêves, où, par exemple, enfin, notre monde avec la gravité totalement effacée, enfin, c'était une simple remarque, mais bon, voilà, après, je veux savoir si c'est. Beaucoup partagent cette avis.
Ça revient à ce que vous posiez comme question tout à l'heure, qui était qu'est-ce que le réel, quoi.
Oui,
qu'est-ce que le réel.
Mais si vous voulez, il ne s'agit pas
de. Le réel se limite aux personnes.
Il ne s'agit pas de conclure, mais à nouveau, autant je m'intéresse à des choses extérieures à la science, que peuvent être justement le discours religieux ou les mystiques, etc., et les cosmogonies que cela entraîne, autant malheureusement je connais peu, c'est pas que je m'intéresse pas, mais je connais très peu la science-fiction. Mais pour moi, je reste convaincu que sur des questions aussi fondamentales que qu'est-ce que la réalité, qu'est-ce que l'humain, vous disiez, etc., la vraisemblance, une réalité extérieure à la nôtre, qu'est-ce que l'espace, le temps, l'origine première, la cause première, nous avons fait allusion à toutes ces questions-là. Je veux dire, on a besoin de tout le monde, que ce soit le scientifique qui a son approche, sa méthode, et qui me semble être tout de même, bon, mais ça, il faudrait discuter plus longuement, mais, avoir quelque chose à dire, disons, d'autres contributions artistiques, au sens le plus général, et la science-fiction en tant que telle, me semble être une vraie contribution, pas simplement parce qu'elle fait, dans le sens le plus immédiat, rêver, mais parce que véritablement, elle appelle à penser de façon supplémentaire, et en ce sens, elle joue le même rôle, elle participe au même débat, avec son rôle à elle, en tout cas sa fonction à elle, que le scientifique qui a sa propre aussi façon d'évoluer. Bon, après, il ne s'agit pas de hiérarchiser les choses, bien sûr. Tous les modèles d'univers avec des dimensions supplémentaires, où le véritable univers est à multiples dimensions, et où en fait essentiellement la physique dans l'univers qui serait le nôtre, immédiatement sensible, serait déterminée par les dimensions supplémentaires, pas tout le détail, mais beaucoup serait déterminé par des dimensions supplémentaires, peut rejoindre ce cadre, ce calque, disons, d'une réalité qui nous domine, et nous ne serions pas la réalité. Ça rejoint aussi des schémas un peu à la Matrix, des choses comme ça, où on est groupé, bon, tout ça peut se croiser. La différence tout de même qu'il reste, c'est pour ça que je n'étais pas du tout d'accord avec votre séparation entre la science, entre éventuellement ce que serait la science et ce serait la science-fiction, c'est que il faut élaborer un discours cohérent, un discours de sens, selon moi. Tout le monde, tous les scientifiques ne seraient pas d'accord avec moi. Pour moi, la science est un bon moyen, loin de là de dire que c'est le seul moyen, est un bon moyen d'élaborer un discours de science, de sens, pardon, sur le monde. La science-fiction peut aider, comme d'autres. Très bien, très bien, très bien.
Très bien. Donc, ce que je disais, c'est que le critère de sens n'est pas le même.
Non, ça je ne crois pas.
On va parler de ce débat dessus. Il y avait une autre question, ça sera la dernière, parce que malheureusement, bonjour.
Dans ce pouvoir, lui permet.
sens parce que ça se passe à des échelles complètement différentes. La nécessité, bon, même si ce n'est pas posé en termes seulement de nécessité, mais la nécessité de la matière noire pour expliquer certains équilibres, dynamiques, etc., se situe à des échelles très très supérieures des échelles à laquelle on observerait ce trou noir et l'horizon de ce trou noir. Donc les deux problèmes ne se rejoignent pas. Par contre, ce qui peut être vrai, c'est si vous imaginez, ce qui peut faire se lier ces deux problèmes, c'est si vous imaginez des trous noirs qui ne sont pas simplement constitués de matière standard, qui seraient aussi constitués de matière noire. Dans ce cas-là, la physique du trou noir et certains théorèmes que l'on connaît sur les trous noirs pourraient être alors tout différents. C'est ce qu'on appelle, par exemple, le théorème de Calvici, c'est-à-dire le fait qu'on n'observe pas justement en dehors de l'horizon, on n'a pas d'effet de la présence du trou noir, pourrait être violé avec certaines formes de matière noire, etc. Mais que le trou noir... Alors, je corrige, excusez-moi. Il a été pensé à un moment, effectivement, que la matière noire, les effets de matière noire, en tout cas sur certaines échelles, pouvaient être le résultat de la présence de trous noirs primordiaux auxquels on faisait référence. Mais ces trous noirs primordiaux sont ce qu'on appelle de nature baryonique, parce qu'ils auraient une masse, en tout cas c'est cela qu'on envisageait, ils auraient une masse intérieure faite de matière normale. Et on a d'autres moyens de mesurer la quantité de matière baryonique dans tout l'univers. Et ça viendra en violation de ces déductions-là, de ces prédictions-là, de ces mesures-là. Donc on serait face à une contradiction qui n'est pas satisfaisante. Donc on a un peu abandonné cette idée. Lien matière noire, trou noir, pour substituer à la matière noire des trous noirs, ça ne semble pas tenir. Bon, rien n'est jamais ultimement fermé. Par contre, la physique des trous noirs pourrait être complètement modifiée si on introduit de la matière noire à l'intérieur des trous noirs, ce qui voudrait dire qu'on envisage une théorie de la gravitation très différente de celle de la relativité générale. Et là, le problème est complètement différent.
Bien, là, je suis Pierre Bordage qui devait aller signer ses livres.
Je n'ai rien dit.
Écoutez, on va clore le débat si vous voulez bien. Je garde l'idée que les scientifiques et les auteurs de science-fiction sont là pour donner du sens à la réalité, voilà. À notre réalité. Je trouve que c'est une belle phrase. Et puis je vous remercie. À bientôt.
Exactement. C'est tellement un défi tellement monstrueux qu'on a besoin de tout le monde.
C'est une belle idée.
Il y a une dimension.
Ah d'accord, je ne sais pas. Il est aussi.
C'est l'aspect
que ça se réfère au paradoxe. C'est pour ça que c'est la même chose.